Le cluster montagne est le réseau des acteurs de la filière de l'aménagement touristique de la montagne. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans notre 8e et tout dernier podcast de notre série des clusters montagne insights. Bonjour et bienvenue, je suis Élodie Coutin, responsable communication, promotion et événements du cluster montagne. Et je vais vous guider tout au long de votre écoute dans cette série. Nous sommes en 2022 et c'est une année assez particulière pour le cluster montagne puisque nous fêtons les 10 ans de l'association. Aussi, nous avions à cœur de revenir sur notre histoire, nos valeurs et surtout notre stratégie de développement. Le cluster montagne permet de faciliter le développement des entreprises au bénéfice des territoires en articulant son action autour de 4 piliers stratégiques : le réseau, l'innovation, la croissance et le développement durable. À chaque épisode, nous irons à la rencontre de membres, de partenaires, pour qu'ils puissent nous partager leurs expériences, leur savoir-faire, un de leurs souvenirs sur notre association, ou encore imaginer ensemble l'avenir de la filière. Aujourd'hui, je vous propose de partager un petit moment avec les deux présidents du cluster montagne, à savoir Fabrice Pankouk, président délégué aux relations institutionnelles, et Patrick Grandery, président exécutif de notre association. Bonne écoute! Bonjour Fabrice.
Bonjour Elodie.
Bonjour Patrick.
Bonjour Elodie.
Alors Fabrice, je vous ai présenté en préambule sous la casquette du président délégué aux relations institutionnelles du cluster montagne, mais finalement, qui êtes-vous ?
Alors, en quelques mots, d'abord, je ne suis pas né à la montagne, je l'ai choisi. C'est moi qui ai exprimé la volonté de pouvoir venir vivre et travailler sur nos territoires. Je suis forestier de formation et j'ai commencé ma carrière professionnelle comme fonctionnaire territorial à la commune de Saint-Martin-de-Belleville. J'ai ensuite été maire de Saint-Jean-de-Belleville pendant 13 ans, puis de Moutier depuis 2014. En 2016, j'ai rejoint l'aventure région en étant tout d'abord conseiller délégué aux espaces valléens, ce qui m'a naturellement rapproché du cluster montagne et de l'ensemble des activités qui sont mises en œuvre ici, ce qui m'a rapproché aussi du comité de massif, puisque je vice-préside la commission permanente du massif des Alpes sur nos deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis, chemin faisant, j'ai pris la présidence de l'Agence régionale du tourisme, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, naturellement, depuis un peu plus d'un an maintenant. Et à l'été dernier, Laurent Wauquiez m'a confié la vice-présidence à l'agriculture, mais en gardant les espaces valléens et en gardant le tourisme. Ce qui pour moi, en réalité, est une véritable synthèse d'abord de notre territoire régional, mais avec une focale toute particulière sur les territoires de montagne.
Très bien, merci. Patrick, de votre côté, vous êtes le président exécutif du cluster montagne, mais aussi et surtout le directeur général de la société Lumiplan Montagne. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Oui, alors très vite, Lumiplan Montagne, c'est la branche montagne et tourisme d'une PME française qui s'appelle Lumiplan, qui est basée sur 5 sites en France, dont la Savoie et l'Isère et Nantes notamment, entre autres. Et une PME internationale spécialisée dans les systèmes d'information temps réel au service du parcours et de l'expérience des clients. Donc on fait ça en montagne, dans les territoires touristiques également, et puis dans les villes avec de l'information citoyenne à travers des écrans techniques à LED notamment et des applis mobiles, et dans les transports publics également.
Alors il me semble que Lumiplan Montagne est un membre historique du cluster Montagne. Pourquoi avoir choisi d'adhérer et surtout très vite de vous investir en tant que vice-président puis président au sein du cluster Montagne ?
À l'époque de la création du cluster Montagne, nous étions en 2012, j'avais déjà 52 ans. Et pour moi, ça avait déjà du sens de commencer à transmettre, à partager. Il se trouve que dans ma vie antérieure professionnelle, je travaillais avec beaucoup de dirigeants sur les notions de développement d'entreprise, de synergie, d'innovation. Et je trouvais que ça avait vraiment du sens d'être à la fois impliqué en tant qu'acteur économique dans, on va dire, le développement de la filière, et puis également de partager un peu mon expérience, quelques connaissances. Et puis j'ai rencontré des gens vraiment fantastiques et une cause aussi pour cette association très très motivante, et j'ai voulu m'y investir dès le départ.
Fabrice, vous partagez la présidence du cluster Montagne aux côtés de Patrick depuis 2 ans maintenant. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette présidence particulière déléguée aux relations institutionnelles ?
Alors elle est effectivement particulière parce que le président, le vrai président, c'est évidemment Patrick dans cette maison. Et on est plutôt sur un accompagnement, je dirais, sur des aspects qui sont institutionnels comme le nom l'indique, et donc de liens, de réseaux, de promotion aussi à des endroits bien choisis. Pas sur les acteurs économiques, mais vraiment sur les acteurs institutionnels. Dans nos mandats d'élus locaux et régionaux, on est au contact de nombreux acteurs, de nombreuses collectivités et institutions. C'est précisément là le rôle qui doit être le mien et celui que j'essaie de tenir au quotidien pour porter la voix du cluster d'une certaine manière et mettre en contact soit pour des partenariats, soit pour des accompagnements aussi en termes de finances, naturellement.
Et surtout, que retenez-vous de ce rôle ?
Je le trouve passionnant, parce que lorsqu'on est au cluster, on est au contact de nombreux acteurs, tous passionnés de la montagne. En fait, il y a un dénominateur commun lorsqu'on est ici, c'est évidemment nos territoires de montagne. Et la portée du cluster fait qu'elle n'est pas limitée ici à notre seul périmètre où on s'exprime, bien sûr une portée d'ensemble sur l'ensemble de notre territoire national. Et lorsqu'on occupe des mandats qui nous permettent d'aller au-delà de nos périmètres de confort, je dirais, c'est aussi l'occasion de porter cette image-là. Et donc, globalement, c'est la montagne française.
Allez Patrick, on se plonge dans le quotidien du cluster montagne, si vous le voulez bien.
Allez, on y va.
Nous avons enregistré il y a quelques semaines un podcast dédié au 4e opus du cahier de tendance montagne, où il y a une place toute particulière qui est consacrée aux audacieux. Mais pour vous, finalement, qu'est-ce que l'audace ?
Je vais reprendre la même définition que le dictionnaire. L'audace, ça vient de audere, du latin, c'est oser. Oser, et alors, moi, la meilleure définition que je pourrais donner, c'est quand l'envie d'avancer est plus forte que la peur de changer. Et je crois que c'est vraiment ça, l'audace. C'est avoir déjà une vision, avoir des convictions, et avoir suffisamment d'envie et de confiance en soi et dans l'environnement aussi, pour entreprendre des choses difficiles, oser, et quelque part lutter contre ces peurs, parce que des peurs, on en a tous. On est dans un milieu, en ce moment, qui est pas mal chahuté, c'est compliqué, que ce soit sur les aspects économiques, énergétiques, environnement, etc. Il y a une pression sur notre filière et sur notre industrie. Et je pense que la meilleure manière de sortir de ça par le haut, c'est de prendre en main, justement, le destin de nos entreprises et d'avancer avec l'ensemble des forces en présence de cette filière, pour construire notre futur et le construire, mais avec une vision positive, avec de l'envie. Mais ça suppose aussi, l'audace, ça suppose d'accepter l'échec, d'accepter le droit à l'erreur. Et ça, c'est des choses qui sont dans nos entreprises, j'allais dire gravées, hein, puisque un entrepreneur, il se lève le matin, il ne sait pas forcément ce qui sera dans 2 ou 3 ans, mais tous les jours, il prend des risques. Et ça, je crois que c'est ce qui fait avancer aussi et nous, on est là pour accompagner cette prise de risque de nos membres.
Est-ce que vous pouvez nous partager une action, une initiative, un projet que vous pouvez qualifier d'audacieux au sein de la filière de l'aménagement touristique de la montagne ?
En fait, il y en a plein. Il y en a plein et le fameux cahier des tendances qui est... Enfin, moi, je trouve que c'est une édition vraiment exceptionnelle et assez extraordinaire d'arriver à faire ce travail-là avec nos partenaires. Relate effectivement beaucoup d'expériences et de réussites, parfois des échecs. Alors moi, j'en ai quelques-uns. Je citerai nos amis de Snook qui promeuvent une forme de glisse alternative, Moonbike, ces fameuses motos individuelles électriques, toutes électriques, motoneige. C'est assez extraordinaire. On voit qu'ils ont un succès fulgurant aux États-Unis, que ça commence un peu en France. Mais pour des questions administratives, ça a été un peu plus compliqué pour eux. Il y a aussi des sociétés de conseil, hein, Claire Anne, qui est la gérante de Damoé, la présidente de Damoé, qui fait du conseil et de l'accompagnement sur les approches environnementales. Il y a des gens comme Gerlin Chichrit, qui sont des sportifs de haut niveau, qui aujourd'hui travaillent et militent sur l'hydrogène. Je trouve que c'est assez exemplaire et c'est des gens qui prennent des risques véritablement et qui arrivent à lever des fonds, à être accompagnés, et donc qui sont visiblement crédibles et qui font avancer les choses. Il y a aussi le village Baïséa. C'est une institution, mais les banques aujourd'hui sont également capables d'audace et accompagnent des créations d'entreprises, de l'incubation, etc. Donc voilà, l'audace, ce n'est pas que des startups, ce n'est pas que des gens qui ont posé le cerveau pour aller faire des choses complètement délirantes. C'est autour de nous tous les jours. Je viens de vous donner quelques exemples d'entreprises et d'organisations audacieuses, mais je pense qu'il y a aussi des territoires, et je profite de la présence de Fabrice qui est élu de territoire, et pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, il y a des élus, il y a des organisations territoriales qui sont audacieuses. Alors, on a toujours tendance à dire « oui, mais les élus, ça bouge pas beaucoup, c'est long, etc. » Je crois qu'il y en a vraiment aujourd'hui qui ont compris l'intérêt de bouger et qui prennent des risques.
Patrick a tout à fait raison dans ce qu'il dit. Alors, je ne veux pas stigmatiser sur un territoire ou un autre, mais ce qui est une évidence, c'est que dans nos territoires de montagne, les collectivités sont des agents économiques, ce qui change évidemment. Et quand on est en montagne, eh bien, il y a ce caractère pionnier. Et donc, pionnier plus économie, effectivement, ça oblige à se bouger.
Fabrice, on va rester avec vous. Dans les exemples donnés par Patrick, on a vu qu'on abordait différents enjeux, hein, défis à relever pour la filière de la montagne. On ne peut pas ignorer ces enjeux auxquels le secteur de la montagne est confronté, des enjeux climatiques, des enjeux de transition ou encore des enjeux humains. Quels sont pour vous les principaux challenges à relever pour les destinations de montagne ?
Moi, je citerai quatre sujets qui me semblent vraiment prioritaires dans nos actualités. Il y a évidemment celui de l'énergie qui nous frappe avec une violence sans pareil. On a celui du climat qui est un véritable sujet où on doit aussi rassurer d'ailleurs, au-delà des constats qu'on peut faire, apprécier que nous sommes dans une phase avec une tendance de fond et qu'il puisse y avoir des épisodes ponctuels. C'est précisément ce qu'on a vécu au cours de l'été 2022. Je citerai le sujet de l'emploi, parce qu'on voit bien la difficulté qu'on a auprès de nos membres, comme d'ailleurs d'une manière générale dans l'économie, de pouvoir trouver des têtes et des bras pour permettre de fonctionner bien et aller chercher la meilleure optimisation de notre économie. Et puis enfin, j'en terminerai par une dimension beaucoup moins matérielle, mais qui est la sociologie autour de la montagne. Et là-dessus, nous avons un travail très important à faire. On ne peut pas reprocher aux socioprofessionnels de la montagne de ne pas s'intéresser à leur milieu. C'est le cœur de notre quotidien, c'est le cœur d'un engagement depuis des dizaines d'années, avec des efforts considérables qui ont été mis en œuvre pour protéger le milieu. Il faut que nous ayons la capacité de l'expliquer, de le vulgariser auprès de l'ensemble des publics, ce qui nous permettra aussi de relever les défis. Un certain nombre de défis à relever pour poursuivre nos activités sur les territoires de montagne nécessite que l'on ait des investissements, des engagements, des développements. Le faire, c'est garantir une économie locale, c'est garantir de l'emploi, on y revient, et c'est garantir le fait qu'on pourra continuer d'habiter dans nos territoires, ce qui est quand même particulièrement important.
Alors Patrick, nous avons parlé d'audace, d'action, de challenge, de défis à relever. Pour vous, quelle est la force du cluster montagne ?
Alors la première force qui nous est reconnue et plébiscitée systématiquement, c'est le collectif, c'est le réseau, avec derrière une énergie positive très très forte et surtout une politique d'action autour du développement économique de notre filière. On est là au service de nos membres pour développer cette économie autour de la montagne touristique. On travaille sur l'innovation, sur l'emploi, les compétences. Et puis la notion d'action et d'action collective. On travaille avec de plus en plus avec les territoires dans le cadre des Cluster Mountain Labs pour créer du lien entre les entreprises et les territoires, puisque les consommateurs de nos produits et de nos services sont ceux qui habitent sur les territoires, qui viennent en touristes, en visiteurs. Et donc, cette collaboration, elle est très, très vertueuse. Donc voilà, c'est surtout ces thématiques-là, le collectif, l'énergie positive et l'action.
Peut-être en complément du propos de Patrick, se souvenir qu'on a une grande pluralité des acteurs sur nos territoires de montagne, où chacun reconnaît la mission qui doit être la sienne. Ici, on a un socle autour de l'économie. Donc effectivement, il se passe énormément de choses, mais avec cette vocation, je dirais, constante de pouvoir proposer, accompagner, soutenir les acteurs de la montagne, mais sur le versant de l'économie.
Alors justement, Fabrice, vous spoilez presque la question d'après. Que pensez-vous de ce rôle de connecteur du cluster montagne entre les entreprises qui développent les solutions innovantes au service des territoires ?
Moi, depuis que j'ai rejoint le cluster montagne, je dis que c'est un endroit où on chasse en meute. Parce qu'on a ici beaucoup parlé du développement qu'on fait au national, mais il y a aussi toutes les actions à l'international qui sont portées par le cluster montagne. Et c'est une véritable force de pouvoir le faire ensemble. Donc il y a cette notion que je veux vraiment pouvoir mettre en avant. S'agissant du caractère innovation, quand on est dans un groupe où tout le monde prend un peu de risque et où on peut échanger librement sur le risque qu'on a pris, sur l'objectif qu'on souhaite atteindre, sur l'ambition qu'on peut avoir, soit dans sa mission d'entreprise ou d'activité et en faveur des territoires de montagne, c'est très important. Il y a une forme de notion d'incubateur, finalement, mais protecteur. Je dirais la lampe chauffante est allumée en permanence au-dessus des membres du cluster.
Alors moi, je me permets de faire un petit complément à ce que dit Fabrice, et on est complètement en phase. Pour nous, c'est vraiment essentiel, cette collaboration, dans le sens où finalement, nous sommes nous un peu à l'origine des offres que l'on retrouve sur les territoires. Et ce sont les territoires et les gestionnaires des territoires et l'ensemble des professionnels qui sont, on va dire, à la source des tendances également et de l'évolution des nouveaux paradigmes de consommation, les aspirations, que ce soit hiver, été. Et cette collaboration est vraiment très inspirante pour les chefs d'entreprise pour orienter les politiques R&D. Puisqu'on a une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est là qu'on va détecter avec les territoires les signaux faibles ou forts pour les tendances de demain. Et ça, c'est vraiment important. Et au-delà de l'incubation des idées, l'ambition que l'on a, c'est aller jusqu'à de la collaboration sur le terrain. Pour nous, c'est un peu un laboratoire in vivo, en définitive. Et c'est ce qu'on ambitionne de faire, c'est véritablement faire naître des nouvelles solutions avec les territoires.
Allez, on termine avec la traditionnelle dernière question du podcast. Fabrice, si vous deviez qualifier le cluster montagne en 3 mots, lesquels vous choisiriez ?
Alors je commencerai par fédérer, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises au fil de nos échanges, la force du collectif, elle est ici très importante. Je dirais ensuite oser, parce que si nous nous limitons à écouter ce qu'on veut nous dire, on arrête tout de suite. Et ce n'est pas du tout ici l'esprit ou la culture. On est vraiment dans cette capacité à regarder demain et donc oser. Et puis enfin, et c'est directement lié, je dirais innover. Parce que préparer les territoires de demain, c'est accepter de proposer des modèles nouveaux, d'accepter des activités dont on ne savait même pas qu'un jour elles pourraient exister en montagne. Et c'est aussi entraîner l'ensemble des acteurs vers des choses totalement nouvelles pour ne pas retrouver les mêmes activités dans chacune des stations, parce que sinon, il n'y a plus de singularité. Et s'il n'y a plus de singularité, on a une consommation qui est en érosion.
Et de votre côté, Patrick ?
Alors, Elodie, vous savez que j'ai toujours du mal, moi, à me maintenir sur trois idées tellement il y en a. Non, allez, on va rester là-dessus. Alors, je dirais je vais reprendre les termes du début, c'est audacieux. Évidemment, et Fabrice vient de l'évoquer, mais je crois que c'est vraiment une valeur essentielle. Positif, également. Et puis, efficace, on est dans l'action. Moi, j'aime bien, vous savez bien, rappeler le livret utile. Et on est là pour faire avancer l'entreprise, pour faire avancer nos membres, faire avancer cette filière, collectivement. Et puis, il y a une notion d'éthique aussi derrière.
J'avais dit 3. Hein.
Bah oui, mais j'avais dit que je ne resterais pas à 3.
Merci beaucoup Fabrice et Patrick pour ces échanges.
Merci Elodie.
Merci Elodie.
Merci à tous d'avoir suivi ce 8e et dernier épisode des Cluster Mountain Insights et rendez-vous désormais en 2023 pour de nouvelles aventures. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast au sein de votre réseau. À bientôt.